France Culture, il est midi et demi.
Et sans retard, on donne la parole à Antoine Mercier pour le journal. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Une étude de l'Observatoire du fait religieux où l'on apprend que les convictions religieuses s'affichent de plus en plus au travail. Les cas conflictuels seraient en hausse sensible, compte rendu de Bénédicte Robin. Le naufrage hier d'un bateau de pêche qui transportait 450 migrants au large de l'Égypte. L'espoir est faible ce matin de retrouver des survivants. Récit avec Adrien Toffolet. La guerre en Syrie, des raids aériens d'une grande intensité encore sur les quartiers d'Alep aux mains de l'opposition armée la nuit dernière. Pendant ce temps à New York, le secrétaire d'État américain John Kerry réclame l'immobilisation immédiate des avions russes et syriens, analyse avec Valérie Crova. L'état d'urgence décrété dans la ville américaine de Charlotte, en Caroline du Nord, après une deuxième nuit de violence provoquée par la mort d'un noir tué par un policier. Et puis les Bahamas Leaks, les plus d'un million de documents d'entreprise aux Bahamas, rendus publics ce matin par des journaux européens. Et on y apprend notamment que l'ancienne commissaire européenne à la concurrence, Nelly Kroes, dirigeait une société offshore pendant son mandat. L'invité de la séquence interview, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion publique à l'IFOP, dans la dernière partie de la grande table. Olivier
Jesbert. Le beau lapsus. Excusez-moi. Oui, 6 années de pratique, c'est normal. Faut-il parler de communauté musulmane en France? Qui sont les musulmans de France? Vous savez, il y a eu cette enquête, ce rapport panoramique et polémique réalisé par l'Institut Montaigne et publié dimanche. On va en reparler, on va le discuter avec l'islamologue Rachid Benzine, qui est notre invité ce midi.
D'abord donc cette étude publiée par l'Observatoire du fait religieux en entreprise qui révèle ce matin que les convictions religieuses s'affichent bien de plus en plus au travail et principalement l'islam. Les cas conflictuels sont en hausse sensible même s'ils restent très minoritaires. Selon les auteurs, cette étude témoigne du fait que la présence du fait religieux s'affirme et aussi se banalise donc dans les entreprises. La plupart du temps, il faut bien le dire, sans que ça pose vraiment de problème, Bénédicte Robin.
C'est une des conclusions de cette quatrième étude annuelle. La religion est de plus présente et de plus en plus présente, ou plutôt remarquée sur le lieu de travail. Sans doute, expliquent les auteurs de l'étude, parce que la religion est devenue, ces dernières années, une question prégnante dans la société. Sur l'échantillon interrogé, 1405 personnes, pour être précise, 80% disent connaître la religion de leurs collègues et plus de 80% n'en sont pas gênés. Seule une faible minorité semble y voir un problème. Moins de 10% des sondés disent avoir rencontré une situation conflictuelle, comme des accusations de discrimination raciale ou religieuse, un refus de discuter, des situations plus fréquentes mais toujours marginales. La plupart des faits religieux passeraient donc par le dialogue, et par faits religieux, l'étude entend d'abord le port visible de signes d'appartenance, des demandes d'absence ou d'aménagement d'emploi du temps en fonction de cérémonies ou de fêtes, la prière pendant les pauses, dans une moindre mesure le refus de travailler avec une femme ou sous ses ordres, ou de réaliser certaines tâches. Dans la plupart des cas, la religion citée est l'islam, même si toutes les religions sont concernées, précise l'étude. Pour autant, légiférer sur la place de la religion au travail ne semble pas une priorité. 60% des personnes interrogées y sont défavorables, comme si l'entreprise aujourd'hui avait déjà les outils pour répondre à ces problématiques, avec l'idée qu'elle peut s'adapter aux demandes des salariés, mais qu'elle ne doit pas revoir son organisation en fonction de prescriptions religieuses.
Merci beaucoup Bénédicte Robin, et nous saluons l'invité de la dernière partie de la grande table, Rachid Benzine. Bonjour.
Bonjour.
Politologue, islamologue. Qu'est-ce que vous inspire cette enquête? Bon, il n'y a pas de raison de légiférer sur la place de la religion dans l'entreprise, ou peut-être que si.
En France, on a trop tendance à légiférer sur la question religieuse. La question religieuse ne s'applique pas, c'est-à-dire ce n'est plus simplement une question religieuse, ça devient une question sociale et politique. Et ce que nous avons entendu ici, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'adaptation par le dialogue de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, mais sans pour autant modifier l'organisation. Et il est normal que l'entreprise soit aussi touchée parce que les croyants sont à la fois croyants chez eux, dans la société et dans l'entreprise. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les croyances, quelles qu'elles soient, ont des effets sociaux, psychologiques et politiques. Et donc, il y a tout un travail à faire de telle sorte que le rigorisme de certaines croyances ne puisse pas devenir un obstacle pour le travail dans l'entreprise et pour le vivre ensemble dans la société.
Il faut trouver la juste mesure entre ces deux, la nécessité de reconnaître l'expression d'une forme de pratique religieuse et le fait que nous sommes dans une entreprise, dans un espace public qui doit nécessiter des règles. On reparlera de tout ça tout à l'heure, puisqu'on parlera avec vous dans la dernière partie de la grande table de ce qu'on appelle, ou je ne sais pas s'il faut l'appeler, la communauté musulmane de France. Il y a une autre question qui n'est pas sans rapport complètement, la question de l'inhumation du djihadiste Larossi Abala, qui avait tué en juin dernier un policier et sa compagne à Magnanville. Eh bien, cette question a été transmise aujourd'hui au Conseil d'État. Le tribunal administratif de Versailles avait été saisi par le père de Larossi Abala, qui souhaite donc que la dépouille de son fils soit inhumée à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, où il résidait. Mais le maire, les Républicains de la ville, s'y opposent en faisant valoir un risque de trouble à l'ordre public. C'est donc le Conseil d'État maintenant qui va décider, Antoine Marais.
Effectivement, et le tribunal administratif de Versailles ne s'est pas prononcé sur le fond du dossier. Lors de l'audience, il y a deux semaines, l'avocat de la mairie de Mantes-la-Jolie avait plaidé l'inconstitutionnalité de l'obligation légale faite au maire d'inhumer ceux qui résident dans leur commune sans distinction à raison des circonstances qui ont accompagné sa mort. Cette disposition législative est contraire au principe constitutionnel de libre administration des communes. Le tribunal a reconnu le sérieux de la question et l'a donc transmise au Conseil d'État. C'est ce qu'avait préconisé le rapporteur public à l'audience. Alors maintenant, la juridiction suprême administrative dispose de 3 mois pour transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel si elle estime que tous les critères de recevabilité sont remplis. Dans l'attente de la résolution de ce point, le tribunal administratif a sursis à statuer sur le fond. Et donc le corps de Larossi Abala attend toujours à l'Institut médico-légal de Paris.
Merci beaucoup Antoine Marette. Rachid Benzine, vous voulez dire un mot là-dessus ?
Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui qu'on puisse poser la question de l'inhumation d'un Français aujourd'hui et qu'on invoque l'idée de l'ordre public. C'est-à-dire que c'est... Il est temps que la France reconnaisse, que ce soit ses enfants, quoi qu'ils aient fait. Et le fait que son père veuille l'enterrer sur le sol français montre pour moi la dernière phase de l'intégration, c'est-à-dire l'intégration par le sous-sol.
Rachid Benzine, merci. On vous retrouve tout à l'heure donc.
Dans la troisième partie de la Grande Table France Culture, il est 12h37, le naufrage hier d'un bateau de pêche qui transportait jusqu'à 450 migrants au large de l'Égypte. L'espoir est faible de retrouver les survivants.
Pour l'instant, le bilan s'élève à au moins 42 morts. Seules 163 personnes ont pu être secourues sur les lieux du naufrage, à 12 km donc au large d'une ville qui s'appelle Rosette, sur la côte nord de l'Égypte. Le bilan va s'alourdir, affirme une source médicale. Dans la soute du bateau qui n'a pas encore été ouverte, il y aurait effectivement de très nombreux migrants qui auraient trouvé refuge. Adrien Toffolet, vous avez rassemblé pour nous ce que l'on sait pour l'heure de ce nouveau drame des migrations en Méditerranée.
Oui, les premiers témoignages des survivants permettent de raconter la scène. Hier, environ 200 personnes, égyptiens, soudanais, érythréens, somaliens et syriens, embarquent sur un vieux chalutier. La petite embarcation est déjà bien remplie, mais les passeurs invitent encore plusieurs centaines de personnes à se faire une place dessus. Le moindre centimètre carré est occupé jusque dans la soute à poissons vide pour l'occasion. Et puis c'est le départ pour la traversée de la Méditerranée. Au bout de 12 km seulement, le bateau surchargé commence à tanguer et fatalement finit par se retourner, emportant par-dessus bord ses passagers et offrant à ceux dans la soute un sort funeste. Au large de la ville de Rosette, proche d'Alexandrie, les rescapés commencent à nager vers la côte et ce n'est qu'au bout de 6 heures que les premiers secours seraient arrivés et 4 passeurs auraient été arrêtés par les autorités. Le nombre de victimes, vous l'avez donné, 42 morts, dont 10 femmes, 31 jeunes hommes et 1 enfant. Mais avec les recherches qui se poursuivent, le bilan sera plus grand. À l'heure actuelle, c'est déjà l'un des naufrages les plus meurtriers de la Méditerranée cette année. Méditerranée, passage obligé pour les migrants depuis la fermeture de la route des Balkans en mars dernier. L'Égypte est devenue un pays de départ, 10% des arrivées en Europe, au même titre que la Libye. Une situation qui ne risque pas de s'améliorer. Le gouvernement égyptien l'a répété il y a encore quelques semaines. Le pays n'a pas vocation à être une destination. Il restera un pays de transit.
Adrien Toffolet, merci. La guerre en Syrie et en Irak, puisqu'il y a des préparatifs pour l'offensive des forces irakiennes soutenues par les Occidentaux qui sont de plus en plus visibles sur la ville de Mossoul. Et de l'autre côté, sur notre front syrien, c'est Alep qui reste le principal enjeu des combats entre forces rebelles et forces du régime syrien. Il y a des raids d'une très grande intensité qui ont eu lieu la nuit dernière, qui ont visé des quartiers de la ville qui sont aux mains de l'opposition armée. 15 raids au total qui visaient deux quartiers où le front du Levant est présenté, selon un représentant de l'opposition armée à Alep, pour qui les Russes veulent maintenant une reddition de ces troupes rebelles et ils n'ont pas d'autre solution. Pendant ce temps, à New York, le secrétaire d'État américain John Kerry réclamait hier l'immobilisation immédiate des avions russes et syriens, mais il semble que les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose face à l'offensive russo-syrienne qui se poursuit. Valérie Crova.
Oui, il faut avoir une bonne dose d'optimisme pour imaginer que la réunion du groupe international de soutien à la Syrie qui se retrouve cet après-midi à New York débouchera, tant les débats d'hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU ont été houleux. 3 heures durant, John Kerry et Sergueï Lavrov se sont livrés à une joute verbale dans une ambiance glaciale. On est loin de la poignée de main entre les deux parrains du énième accord de Genève signé le 7 septembre, accord qui devait instaurer une trêve reconductible de 7 jours, mais cette trêve, comme les précédentes, a fait long feu. Les combats ont d'ailleurs repris à Alep, vous le disiez, où les quartiers tenus par les rebelles ont été la cible de raids aériens intenses la nuit dernière, les plus importants depuis des mois. Un peu plus tôt, devant le Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie russe rappelait ses principaux arguments. L'urgence est d'éliminer les terroristes et les djihadistes, et ce sont les rebelles qui sont responsables des violations du cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain lui a répondu en qualifiant de violation du droit international le raid contre un convoi humanitaire lundi qui a coûté la vie à 20 personnes, et John Kerry de mettre son homologue russe au défi de contraindre Damas à garder ses avions au sol de façon à ne plus bombarder l'opposition et les civils. Mais il faudrait beaucoup plus qu'une simple injonction pour faire plier les deux alliés face à une communauté internationale impuissante à trouver une issue à cette guerre.
Valérie Crova, merci.
Midi 41 sur France Culture, la suite du journal d'Antoine Mercier. En marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, des dirigeants du monde entier appellent gouvernements, médecins, industriels et consommateurs à endiguer la menace mortelle des super bactéries résistantes aux antibiotiques.
C'est la directrice générale de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, qui déclare à l'ouverture de cette première réunion jamais convoquée sur le sujet à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Eh bien, la situation est mauvaise, elle est en train d'empirer. Certains scientifiques parlent de tsunami au ralenti, et si on continue, affirme-t-elle, eh bien une banale maladie va devenir incurable. Véronique Reberotte.
Oui, les super bactéries hantent déjà les hôpitaux et les unités de soins intensifs du monde entier, alertent les Nations Unies. Les infections résistantes donc aux antibiotiques tuent actuellement plus de 230 000 nouveau-nés chaque année dans le monde. Selon les estimations de l'ONU, eh bien les super bactéries pourraient tuer par an jusqu'à 10 millions de personnes d'ici 2050, autant donc que le cancer. Le problème a surtout deux origines caractérisées. Il vient de la surutilisation et de l'utilisation à mauvaise gestion, bien sûr, de ces antibiotiques. C'est le médecin qui vous prescrit des antibiotiques pour une infection virale telle le rhume ou la grippe. C'est le malade qui insiste aussi pour se voir prescrire des antibiotiques inutiles. Ingestion directe ou indirecte aussi de ces antibiotiques qui se retrouvent aussi sous forme de résidus médicamenteux dans l'eau du robinet que nous consommons. Ingestion aussi à travers, bien sûr, notre alimentation est pointée par les Nations Unies. L'utilisation massive d'antibiotiques dans l'élevage. Les animaux grossissent plus vite grâce aux antibiotiques qui favorisent leur croissance. L'an dernier, l'Organisation mondiale de la santé recommandait l'interdiction dans l'élevage et l'agriculture d'antibiotiques essentiels pour la santé humaine. Alors, il y a un plan d'attaque des Nations Unies. Il consiste à la fois à encourager l'apparition des traitements alternatifs, à encourager la recherche aussi pour trouver absolument de nouvelles classes d'antibiotiques qui seraient à nouveau efficaces. Et puis, il consiste aussi à mieux encadrer l'usage des antibiotiques. Le message, les antibiotiques, c'est pas automatique, doit rapidement se répandre dans le monde entier.
Merci beaucoup, Véronique Reberotte.
Plus d'un million de documents d'entreprise aux Bahamas ont été rendus publics ce matin par des journaux européens sous le nom de BahamaLeaks.
Oui, on y apprend notamment que l'ancienne commissaire européenne à la concurrence, s'appelle Nelly Kroes, qui était chargée à ce titre de surveiller le monde des affaires, dirigeait ou participait à la direction d'une société aux Bahamas pendant son mandat, et ce, naturellement, au mépris de toutes les règles européennes, que nous amène Anne-Laure Chouin de nouveau cette nouvelle livraison de documents.
Alors que les Bahamas soit un paradis fiscal, on le savait déjà, près de 200 000 structures offshore y sont enregistrées. On peut même savoir lesquelles, moyennant paiement, sur une sorte de registre du commerce de l'archipel. Mais ce qu'ont découvert les journalistes de l'ICIJ, ce consortium à l'origine des Panama Papers, c'est que ce registre comporte de nombreux trous qui rendent impossible de relier ces identités, ces sociétés à des identités précises. Le BahamaLeaks, comme on l'appelle maintenant, les révèle ces identités. Et puis, cette affaire enfonce encore un coin dans l'opacité qui régnait jusque-là sur la galaxie des paradis fiscaux. Preuve en est, depuis que la pression s'accentue sur eux, on assiste à des transferts de capitaux occultes vers ceux qui résistent encore. Les Bahamas en font partie. Alors que son gouvernement avait accepté l'échange d'informations avec les organisations internationales ou les services qui en feraient la demande, voilà que l'archipel a refusé il y a quelques semaines seulement les échanges d'informations, cette fois-ci automatique et pour cause un bon nombre de capitaux partis de Suisse, par exemple, pays qui a accepté de lever son secret bancaire, se sont réfugiés aux Bahamas.
Et puis alors évidemment, il y a ce cas choquant dont on parle, qui fait maintenant la une des journaux, c'est cette commissaire à la concurrence qui participait à la direction d'une société offshore.
Oui, de la part d'une dirigeante européenne qui a demandé pendant des années aux grandes entreprises de jouer en toute transparence et de ne pas tenter d'échapper aux règles communes. L'affaire a de quoi choquer. La néerlandaise, donc Nelly Kroes, se défend en assumant de ne pas avoir informé qui de droit de cette fonction donc d'administratrice pour la société Mint Holding Limited, basée aux Bahamas. Par ailleurs, membre du conseil d'administration ne veut pas dire dirigeante, mais tout de même, au moment où la commission est empêtrée dans l'affaire Barroso-Goldman Sachs, les révélations du Bahamalix jettent le doute, encore une fois, sur l'éthique de nos dirigeants européens. Si Nelly Kroes n'avait rien à cacher, pourquoi les Bahamas ?
Anne Lorchois, merci. Jérôme Fourquet, bonjour.
Bonjour.
Un petit mot là-dessus, vous êtes directeur du département opinion publique à l'IFOP. On va parler avec vous notamment des primaires à droite et de la manière de les appréhender, mais quand même, l'image de l'Europe, après l'affaire Barroso, après notamment aussi l'affaire Juncker, ça se dégrade considérablement dans l'opinion. Est-ce qu'on peut mesurer l'état de rejet ou des approbations ?
Alors, il y avait déjà préalablement à ces deux affaires une défiance qui était quand même déjà très forte. On avait, en 2015, refait des enquêtes sur les 10 ans du traité, du référendum sur le traité constitutionnel. On avait fait revoter de manière virtuelle nos sondés. Et on était à un taux de vote en faveur du non qui dépassait allègrement les 60%. Ça, c'était en 2015. Je pense qu'effectivement, le rêve européen, l'idéologie européenne est très fortement... aujourd'hui dévitalisé, éculé, et que alors ces affaires viennent jeter un peu plus le doute ou apporter de l'eau au moulin à tous ceux qui critiquent la construction européenne, mais que plus fondamentalement, cette construction européenne, elle est en crise parce qu'elle n'a pas su délivrer ou répondre aux attentes et aux promesses qui avaient été faites en termes de croissance, en termes de puissance industrielle, en termes de égalisation des niveaux de vie. On a eu des actualités récentes il y a quelques semaines encore sur la crise du secteur laitier, par exemple. Et donc on voit que cette promesse européenne, aujourd'hui, elle est bien mise à mal. Vous avez commencé votre journal sur la crise des migrants. Là aussi, cette crise avait montré toutes les lacunes le poids des égoïsmes nationaux. Donc, ces affaires récentes touchant des membres éminents de la Commission vont contribuer à détériorer ou à distendre encore un peu plus, s'il fallait, le lien entre les citoyens et cette institution.
Alors on en vient, Jérôme Fourquet, à la politique proprement dite.
Oui, politique française avec la campagne officielle de la primaire des Républicains qui a débuté hier et le débat entre les deux favoris qui s'envenime.
Oui, Nicolas Sarkozy a provoqué de nombreuses réactions en affirmant en début de semaine qu'il fallait exiger des étrangers l'assimilation, ce qu'il a traduit par la formule désormais célèbre « Dès que vous devenez français, vos ancêtres sont gaulois ». Alain Juppé rétorque de manière assez vive dans un tweet ce matin. Donc voici la teneur, nullité du débat politique que soulève certains à droite et à gauche. On débat des Gaulois et si l'on parlait d'avenir. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Antoine.
Dans cette bataille à droite, Nicolas Sarkozy a choisi, on le voit, un positionnement très droite décomplexé et il a progressivement finalement refait son retard sur Alain Juppé, si bien que le maire de Bordeaux, pour ne pas se laisser complètement submerger par la capacité de son concurrent à faire parler de lui, semble lui aussi contraint maintenant de hausser le ton.
Oui, on peut considérer qu'il hausse le ton, mais vous aurez remarqué que ce faisant, il prend bien garde de ne pas parler de Nicolas Sarkozy. Nullité du débat politique que certains soulève à droite et à gauche, dit-il. Et puis, plus loin, on débat des Gaulois. C'est donc bien clairement Nicolas Sarkozy qui est visé là, puisque c'est Sarkozy qui a lancé ce débat. Pour autant, Alain Juppé évite soigneusement de l'attaquer nommément. Ça, c'est en vertu du fait qu'il faut éviter à tout prix de tirer contre son propre camp. C'est la primaire de la droite. Il faudra rassembler tout le monde après l'élection fin novembre et il ne faut pas aller trop loin. Celui qui d'ores et déjà apparaîtrait comme un facteur de division de sa famille politique se lesterait d'un sérieux handicap dans cette compétition. C'est la raison pour laquelle vous allez sans doute voir se multiplier ce genre d'attaques qui, dans la formulation, ne vise personne et dont l'auteur se défend de viser quelqu'un en particulier, mais qui, par les mots employés, en l'occurrence là les Gaulois, pointe une cible clairement identifiée. Alors sur le fond maintenant, on peut s'étonner de cette attaque portée par Alain Juppé. Eh, t'es nul toi ? C'est un peu court et c'est d'autant plus surprenant qu'Alain Juppé avait déjà répondu à Nicolas Sarkozy sur cette question des Gaulois il y a deux jours sur France Info. Il faut respecter la diversité, avait dit le maire de Bordeaux, et puis il faut éviter cette hystérie déraisonnable sur cette question de la relation avec les musulmans. Bref, arrêtons les caricatures, semblait-il dire. un peu de sérieux et de responsabilité. C'est d'ailleurs toute l'intention du camp Juppé, intenter un procès en irresponsabilité en direction de Nicolas Sarkozy. Manière de dire en creux, ce type raconte n'importe quoi et donc fera n'importe quoi s'il revient au pouvoir. Et à contrario, Alain Juppé revendique lui la pondération, la nécessité d'apporter des réponses complexes à des problèmes complexes. Bref, face à des problèmes graves, il faut un homme sérieux et responsable. Seulement ça, ça ne fait pas le buzz médiatiquement, alors il s'y essaye, Alain Juppé. Hey, t'es nul toi, dit-il ce matin, mais on voit là qu'il ne sait pas faire et on a du mal à voir quel bénéfice il espère tirer de ce changement de pied et de cette réduction du débat à l'invective.
Stéphane Robert, merci beaucoup. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion publique à l'IFOP. Est-ce que vous y voyez quelque chose dans cette primaire à droite? Est-ce que vous avez des signes? On a l'impression que les deux sont, on dit que les deux sont coude à coude, au coude à coude. Alors, comment, quelle dynamique il y a? Quelle tendance?
Alors, ce qu'on mesure aujourd'hui, effectivement, c'est que la compétition semble se polariser autour des deux principaux candidats que sont Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Nicolas Sarkozy, qui était assez nettement devancé au printemps par Alain Juppé, a refait son retard à la fin du printemps et à la faveur de l'été, notamment à l'occasion de ses prises de position très tranchées sur la question des attentats qui ont secoué notre pays au mois de juillet. Et donc aujourd'hui, alors c'est toujours compliqué avec cette primaire, donc on va essayer de faire un peu de pédagogie. Sur la base de ceux qui nous disent être certains d'aller voter à la primaire, on est à égalité entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy.
À quel score à peu près?
Aux alentours de 30-35%. Donc vous voyez qu'à deux, ils font entre 2/3 et 70% des votants potentiels à la primaire, et donc pour les 5 autres candidats, puisque M. Mariton n'a pas eu ses parrainages finalement, ils sont donc 7, les 5 autres se partagent les 30%.
Donc là on table sur combien de votants à peu près là?
Alors là on table à peu près sur 3,5 millions de votants, et pour mémoire, le deuxième tour de la primaire du PS en 2011, c'était 3 millions de votants, donc on est à peu près dans l'étiage. Donc ils sont à égalité. Maintenant, si on ne regarde pas simplement l'ensemble des gens qui disent avoir l'intention certaine d'aller voter à la primaire, mais qu'on se concentre uniquement sur ceux qui, en plus, revendiquent une appartenance à la droite. Donc c'est vraiment le cœur de cible. Alors là, la photographie change et Nicolas Sarkozy est nettement devant Alain Juppé. Et donc c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, parce que c'est ça qui explique aussi ce diagnostic-là, qui explique aussi les choix stratégiques de ces deux candidats. Chez les sarkozistes, on est persuadé que seule, entre guillemets, la famille viendra voter, qu'on sera entre un électorat de droite et uniquement un électorat de droite, et c'est à lui et à lui seul qu'il faut parler.
Alors justement, est-ce qu'on sait qui va aller voter aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible d'avoir à peu près une idée ou pas?
Notamment les gens de gauche.
Alors on a une idée assez précise, en tout cas chiffrée, de ceux qui nous disent avoir l'intention d'aller voter. Toute la question est de savoir si ceux qui nous disent à nos enquêteurs qu'ils iront voter le feront vraiment le jour J. Ça vaut notamment pour cette fameuse frange d'électeurs de gauche qui pourraient s'inviter à cette primaire. Aujourd'hui, sur 100 personnes qui nous disent être certains d'aller voter, on leur explique quand même qu'il faudra payer 2 euros, signer une charte reconnaissant les valeurs de la droite et du centre. Pour autant, sur 100 personnes qui nous disent vouloir aller voter à cette primaire, on en a à peu près 55% qui revendiquent une proximité au Parti des Républicains et 10 à 14% qui nous disent être proches d'une formation de gauche. Le reste se répartissant entre des 100 préférences partisanes, des centristes et des proches du Front National. Donc il y a une vraie interrogation sur pas tellement sur le volume de votants, mais que sur la composition de ce corps électoral. Est-ce qu'on est sur quelque chose d'homogène ou est-ce qu'on a des électorats halogènes qui viennent se greffer, sachant que ces gens qui viennent du centre, mais surtout de la gauche, s'ils vont voter, c'est pour voter Juppé. Et donc, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, et selon quelle proportion, ça change.
C'est contre Sarkozy, quoi.
Et donc, ils sont contre Sarkozy.
Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 tours à cette élection. Oui. Et qu'au deuxième tour, Sarkozy-Juppé, peut-être que plus de gens de gauche pourraient se mobiliser en disant on va éviter d'avoir Sarkozy-Le Pen.
Alors, effectivement, c'est dans le camp de Nicolas Sarkozy, on explique, à juste titre, qu'en 2011, à la primaire du PS, il y a très peu de gens de droite qui s'étaient invités dans cette primaire. Certains avaient dit qu'ils vont venir voter pour Manuel Valls. Manuel Valls fait 5 ou 6%, donc manifestement, il y a très peu de gens de droite qui sont venus. On explique aussi, à juste titre, qu'aux États-Unis, la primaire des Républicains, elle est trustée par les électeurs républicains, la primaire des démocrates, par les démocrates. Ça, c'est le schéma classique quand, au deuxième tour, pour ce qui est de la France, on est sur l'hypothèse d'un duel gauche-droite. Et donc les gens de gauche ne vont pas aller voter à la primaire de droite parce que ce serait voter pour le camp adverse. Les choses se compliquent énormément si le système se perturbe et si on a le schéma qui commence à rentrer dans les têtes aujourd'hui, selon lequel Marine Le Pen serait qualifiée au second tour, que la gauche divisée et représentée par un président François Hollande en perte de vitesse dans les sondages serait disqualifiée au second tour. Et donc du coup, mécaniquement, celui qui serait vainqueur ou celle vainqueur à la primaire de la droite serait envoyé au deuxième tour face à Marine Le Pen et du fait du Front Républicain gagnerait. Donc ça, cette dramaturgie, elle va, de notre point de vue, sans doute avoir lieu dans l'entre-deux-tours de la primaire, notamment si, par exemple, Nicolas Sarkozy sort en tête du premier tour et que Alain Juppé est deuxième. Parce que là, on va se dire, dans les têtes, dans les états-majors, mais aussi dans les médias, ce qui se joue là, dimanche prochain, c'est le ticket en finale face à Marine Le Pen. Et à ce moment-là, il n'est pas impossible que le souvenir du 21 avril fasse tilt dans la tête d'un certain nombre d'électeurs de gauche et qu'ils se disent, il faut absolument se mêler de cette primaire, sans quoi nous serons contraints de voter pour Nicolas Sarkozy dans 6 mois pour barrer la route à Marine Le Pen.
Jérôme Fourquet, merci beaucoup.
Merci
on voulait parler aussi de la gauche, on voulait parler du Front National. Malheureusement, nous n'avons pas le temps, mais vous reviendrez pour suivre cette campagne, évidemment, avec nous. Un ciel dégagé, des températures de saison, 20 à 27 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec M. Léchili. Et le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.